Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche que nous allons consacrer aux rameaux et aux cornus. Pour les textes, nous avons pioché dans les ouvrages suivants « Fanchette », le roman de Florence de Guy, « Coutumes et croyances à Blond » de Michel Dominique, la monographie du canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles de Roger Drouot, « Cœur paysan », un roman de Charles Sylvestre, « Les rameaux des enfants jadis » de Marie-Louise Bardon-Saint-Léger, « La société rurale en Limousin et en basse marche » d'Albert Gourceau et « Printemps », un roman de Paul Lavergne.
La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Les rameaux et le cycle des saisons. Le cycle de Pâques, qui fait suite au cycle de carnaval carême, dure 15 jours. Du dimanche des rameaux, appelé souvent Pâques fleurie, au dimanche de Quasimodo ou Pâques close. Même si le cycle de Pâques se place en mars-avril au début du printemps, il est bien une fête spécifique de la chrétienté et non une ancienne fête païenne christianisée. D'où vient donc la fête du dimanche des rameaux? Au début du IVe siècle, les fidèles de Jérusalem commencèrent à commémorer l'entrée solennelle que le Christ fit dans leur ville le dimanche précédant la fête de la Pâque, en l'an 33 de notre ère. Ils formèrent une procession où chacun portait des palmes et chantait « Hosanna au fils de David ». Par la suite, les chrétiens d'Occident prirent l'habitude ce jour-là de venir à l'église en tenant à la main pour remplacer les palmes des rameaux d'olivier qui cependant n'étaient pas bénis à cette époque. Ils ne le seront qu'à partir du 8e siècle. Cette fête des rameaux, nous dit Albert Gourceau, est donc de création relativement récente et, chez nous, elle n'est certainement pas antérieure au IXe siècle, époque à laquelle les campagnes commencèrent à devenir vraiment chrétiennes. Mais jusque vers 1910, elle est demeurée une des plus grandes fêtes de l'année. Et il nous cite ce témoignage. Des coins les plus reculés de chaque paroisse, les familles paysannes accouraient à pied ou en voiture. Très souvent, le père portait sur l'épaule un enfant de 2 ou 3 ans, tandis que la mère tenait le dernier dans ses bras. Les autres suivaient à pied. Il n'y avait pas un enfant, même parmi les plus pauvres, qui n'ait une toilette neuve ce jour-là. Et une mère qui aurait porté son enfant au rampant sans lui avoir acheté au moins un chapeau neuf se serait couverte de honte. Le terme de « rampant » est utilisé en pays à dominant doc, alors que dans la marche, on parlera d'Hosanne. En fait, pour remplacer les palmes ou l'olivier, on utilisera des branches d'arbrisseaux toujours verts ou déjà en végétation, le pin, le laurier, le buis, le saule, le noisetier, d'où le nom de Pâques fleurie que l'on utilise parfois. En fait, les rameaux, c'est à la fois la fête des enfants et la fête des morts. Singulier contraste. Au premier, on donne des branches de buis auxquelles sont attachés des gâteaux, des friandises. Pour les autres, il y avait à la suite de la messe, où l'assistance est toujours la plus nombreuse de l'année, une procession au cimetière, après laquelle les femmes manifestaient bruyamment, sinon sincèrement, leur chagrin. C'était ici le vrai jour des morts. La fabrication des rameaux. Marie-Louise Bardon-Saint-Léger nous raconte avec précision la fabrication des rameaux. Les buis verts chantent dans le vent offrant leurs branchettes vertes afin d'en voir confectionner des bouquets. Parfois, une gerbe gracieuse élancée, un rameau. Suivons la grand-mère au jardin. Elle va, vient, inspecte les haies et choisit dans les ramures celles dont le feuillage est luisant et des plus fournis. Grand-père, toujours alerte, à visiter les arbustes. mais une branchette très droite d'un noisetier à sa faveur. D'un coup de couteau, il en a sectionné la tige et tout en marchant, enlève, racle avec soin l'écorce rousse et, satisfait, il porte un bâton clair qu'il termine en pointe. Un bâton assez grand pour être tenu par de petites mains d'enfant. Grand-mère, ayant déposé sur la table la corbeille d'où s'échappent les ramures vertes, ouvre la porte du buffet et, triomphante, en sort un paquet étrange, biscornu, enveloppé d'un fin papier de soie blanche. Elle dénoue le cordon rose. Oh ! Que les yeux de la fillette s'éclairent d'un éclat radieux. Ce gâteau, elle le reconnaît, est une cornue. Une belle cornue choisie chez le boulanger-pâtissier, une brioche rousse, dorée, possédant trois cornes. Grand-père s'assied en face de sa vieille épouse, tient le bâton, le présente au milieu du gâteau, en dessous, à l'endroit le plus épais, et traverse la souple pâte. La pointe est restée apparente, mais plongeant la main dans l'une des poches de sa veste, il en retire un fruit qu'il y dissimulait avec soin et coiffe la cornue d'une belle pomme rouge et luisante. L'enfonce doucement sur la pointe du bâton sans la blesser. Voilà, le plus difficile est fait. Il a réussi. Bien que le bâton l'ait atteinte au cœur, elle garde une apparence indemne. Il va continuer à aider grand-mère. Il lui présente, le tenant très droit, son trophée. Et les branchettes de buis présentées par les doigts habiles de sa douce compagne seront disposées avec art tout autour du manche de bois en formant un encorbellement gracieux et ajouré de fin feuillage. Un tour, deux tours d'un lien maintiendront le tout en place, recouvert d'un papier blanc. Vous pensez que le rameau est terminé ? Non, non. Il lui faut un ruban, et celui-ci sera rose, noué coquettement, étalant ses grosses coques soyeuses. Cette fois, le rameau est façonné, et il sourit, les chers vieux, et le regarde avec amour. Qu'il est beau, le rameau de leur petite. Déposé dans un vase, il attendra bien droit le départ pour la messe de demain dimanche, celle des rameaux. Voici comment Michel Dominique, lui, nous parle de la fabrication des rameaux à Blon en 1964. La cueillette des rameaux avait lieu le matin même de la fête, mais parfois, la veille, on confectionnait le bâton des enfants qui consistait en une baguette de buis conservant à une extrémité quelques petites branches auxquelles on donnait toutes les formes que pouvait imposer la fantaisie et le bon goût. Ce bâton était agrémenté de friandises et de jonquilles liées aux rameaux. Dans les deux exemples que nous venons de citer, dans la fabrication des rameaux des enfants, on joint au buis des friandises, des fruits, la cornue, mais souvent les rameaux ne sont qu'un faisceau de branches, de feuillage que l'on va faire bénir. Comme feuillage, on n'utilise que du buis, odorat, anantia, abreuillofa, adrou. On ajoute du noisetier à Mézières-sur-Issoire ou à Morterolles, des fleurs, souvent des jonquilles, à Blon ou à Château-Ponsac, des friandises, une cornue, à Breuillofa, odorat, à Saint-Sulpice-les-Feuilles ou à Nantia. À noter qu'à Bellac, on remplace la cornue par un coq en pâte sèche. Enfin, parfois, on ajoute des noix, des noisettes, des œufs durs colorés en vert par du jus d'ortie ou en rouge par du jus de betterave.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Pendant l'hiver, la neige a souri. Pendant l'hiver, les fleurs ont dormi.
Le jour de Pâques est arrivé dans la lumière. Et le printemps s'est réveillé sur notre terre et dans nos cœurs et dans nos cœurs.
Pour se rendre à la messe des rameaux, on fait grande toilette. Paul Lavergne nous en fait récit dans son roman Printemps. C'est demain les rameaux, disait la mère. Vous viendrez à la messe avec moi, mes drôlesses. Il faudra bien faire prendre l'air à vos souliers, car ils sont peut-être moisis depuis le temps qu'ils n'ont pas servi. Et de fait, ils sortaient bien raides de leur cachette. Il fallait pousser, tirer, taper du pied pour y entrer. Enfin, elles étaient chaussées et joliment fières, car il craquait. La mère mettait sa robe à balayeuse, c'est-à-dire à gants, ce frangier qui ramassait la poussière. Son collet, sa toque à violette, ses mitaines de fil, elle ressemblait à une dame, grande, svelte, l'allure fière. Rosalie ne se lassait pas de la contempler. Elle et la petite peluche avaient leur robe écossaise avec leur toque de faux astrakhan. Par la traverse, toutes trois s'en allaient en évitant les flaques. La mère portait son missel dans un réticule de drap brodé à son chiffre. Les fillettes balançaient quelques branches de buis dans leurs mains trop grandes. La route de Gajoubert était noire de monde. Des femmes, toutes pareilles, dont leurs capes, des hommes en blouse, une brassée de buis sous les selles, des gamins endimanchés qui ne se reconnaissaient plus dans leurs beaux habits.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans « Cœur paysan », Charles Sylvestre nous parle lui aussi du trajet vers l'église. Le jour des rameaux arriva. Des gens de campagne sortaient à plein des chemins de Bois-Gilles, de Lavalette, de l'Abetoul, des Herses, de la Perrière, de Rouffignac, de Villemonteil et de ces métairies centenaires qui commandent les routes du blé depuis des temps et des temps. Des vieux colletés dans des chemises de gros chanvre, des vieilles se balançant dans leurs capes, des petits et des jeunes femmes qui remplissaient des charretons menés par des ânes, portant la croix sur l'échine, depuis que Jésus entra dans Jérusalem sur l'ânesse, accompagné de son ânon. C'était bonne fête, et l'on vendait, à la porte de l'église, beaucoup de gâteaux à trois cornes, où les enfants aiment à piquer un brin de buis. Revenons à Gajoubert avec Paul Lavergne. Dès les temps de Bialet, on percevait le bruit de la cloche. On l'entendait à peine, si vieille, si fêlée, avec sa voix chevrotante. Et le clocher, au milieu des arbres, ressemblait à un pigeonnier. Rosalie s'imaginait que le son provenait de l'étang à l'eau mangée d'herbe. Les tintements étaient si lents, si tristes, comme noyés. On prenait place dans la pauvre église. Parmi les bruits des chapelets égrenés, des chaises remuées sur le dallage, des prières chuchotées, le prêtre, vieux comme son église délabrée, vieux comme une cloche fêlée, célébrait lentement un office miraculeux. Puis, nous dit Paul Lavergne, on passait dans le cimetière où les lilas se mettaient en fleurs, un petit cimetière herbu et ensoleillé, dans la terre duquel il devait faire bon.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région.
Quel usage fait-on de ce buis béni ? Michel Dominique, dans Coutumes et croyances sablons, nous explique. Le prêtre bénissait buis, cornus et bâtons. Le dit service terminé, on portait un rameau béni sur la tombe des disparus, parents ou amis. On piquait le brin d'Ozanne, c'est le nom que l'on donnait au buis, après avoir récité un pater et un ave. Le paysan voulait-il une récolte de miel abondante et ne plus avoir la crainte de perdre ses abeilles ? Dans ce but, il déposait sur la bourna, sur la ruche, un autre rameau en ayant soin de n'entrer dans aucune ferme avant de réaliser l'opération. Le buis béni avait encore la propriété de faire obtenir une moisson abondante en écartant les intempéries tardives et fatales. Pour cela, le paysan de Blon faisait le tour de son champ en récitant un pater et un ave avant de piquer le brin de buis sur le sol à un angle du champ. Il gardait encore plusieurs rameaux qu'il mettait dans sa maison au-dessus des lits, souvent retenus par un Christ, ou dans la cuisine contre des cadres contenant photos de famille, certificats militaires de bonne conduite ou diplômes de première communion. S'il survenait un décès dans la famille, un de ces rameaux était placé dans un récipient contenant de l'eau bénite pour que parents et amis puissent bénir le défunt lors de la visite mortuaire. L'expression consacrée est donnée l'eau bénite. Enfin, le bétail n'était pas oublié. Et d'autres rameaux étaient apportés dans l'étable afin d'écarter les maladies et les épidémies qui frappent si souvent les fidèles serviteurs des paysans. Georges Drouot nous précise que dans la région de Saint-Sulpice-les-Feuilles, il faut présenter soi-même son rameau à la bénédiction, car donner du buis béni porte malheur au donateur comme au donataire. On peut penser qu'il s'agit là d'une recommandation des curés pour obtenir le maximum de fidèles à la messe des rameaux. Madame Bardon-Saint-Léger ajoute que l'on n'oublie pas les poules et les dames caquetantes, dit-elle. Ne pensez pas qu'elles soient oubliées. Avec une branche de buis dans le poulailler, les poules donneront une belle et abondante production d'œufs et de poussins. Robert Gourceau nous précise que les plus grandes processions au cimetière, dont on avait la veille toiletté les tombes, étaient à Saint-Sulpice-les-Feuilles, à Nantia, au Dora, où existait anciennement un cimetière de Lausanne, à Montreuil-Sénart, où l'on fleurissait la croix Auzagnère, à Bussière-Poitevine, où l'on fleurissait celle de Lausanne. Qu'en est-il des fameuses cornues, dont nous avons d'ailleurs conservé la tradition? Écoutons Florence de Guy dans Fanchette. Les rameaux avaient amené la cornue, le gâteau traditionnel à trois cornes. Petite ou copieuse, en brioche ou en biscuit, elle avait triomphé partout. Fanchette avait mangé brin à brin comme une chose précieuse. La petite cornue ou la branche de buis avait laissé un relent amer. Michel Dominique explique qu'à Blon, chaque paysan, avant d'aller à la messe, ne manquait pas d'acheter chez le boulanger ou sur l'étal du pâtissier ambulant la cornue, sorte de gâteau à pâte briochée ayant pour forme un cylindre terminé par deux cornes. La cornue, nous dit Albert Gourceau, était un gâteau de pâte de brioche en forme de Y que l'on appelait cornue à trois cornes. Pour les croyants, il était le symbole de la Sainte Trinité. La tradition semble fort ancienne, puisque en 1175, l'abbé Isambert fit distribuer le second dimanche de Pâques de ses gâteaux cornus à tous les frères de l'abbaye Saint-Martial de Limoges. La tradition voulait que pour les rameaux, les parrains offrent une cornue à leur filleul pour favoriser leur virilité. En effet, pour beaucoup, cette brioche flanqué de trois cornes, évoque une forme phallique, à tel point qu'en 1750, l'évêque de Limoges a demandé au pâtissier d'en moraliser l'aspect. Il est à noter que chez nos voisins de la Charente et d'une partie de la Vienne, existe la cornuelle, une espèce de cornue femelle, de forme triangulaire. Elle est percée d'un trou central.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le départ des cloches. On ne sait, écrit Albert Gourceau, de quand date l'interdiction de sonner les cloches pendant la période où le corps du Christ a reposé dans le silence du tombeau, c'est-à-dire du chant du Gloria de la messe du jeudi au chant du Gloria à la messe du samedi. On dit donc que pendant cette période, les cloches sont en voyage, qu'elles sont parties à Rome. Et on assure les enfants qu'elles reviendraient le matin de Pâques, semant de beaux œufs de couleur tout le long de leur parcours dans les jardins et les haies où les poules ont parfois coutume de dérober leurs pontes. Pour faire respecter ce silence des cloches, les sacristains, aussitôt après la messe du jeudi saint, remontaient les cordes très haut dans le clocher. N'oublions pas cependant que les cloches constituaient l'essentiel de l'environnement sonore des paysans. Et pendant cette période, Il fallait donc les remplacer par des instruments de substitution. Des crécelles, que l'on appelait des râles, un mézière cirissoir, des claquoirs, des martelets, c'était une petite planchette sur laquelle on frappait d'un côté et de l'autre à l'aide d'un petit maillet. Pendant toute cette période qui va des rameaux à Pâques, il y a toute une série d'interdits et de coutumes de pénitence. Ce sont d'abord des interdits alimentaires. On fait maigre à Mézières-sur-Issoire du mardi jusqu'au dimanche. Du mercredi au dimanche à Nantia. Le mercredi et le vendredi à Droux et à Broyofoy. Du jeudi au samedi, au Dora. On jeûne même certains jours à Mézières-sur-Issoire. Il y a également de nombreuses prescriptions relatives au travail. Pendant tout le Moyen-Âge et jusqu'à l'époque contemporaine, nous dit Albert Gourceau, les jeudis, vendredis et samedis saints ont été à peu près partout régulièrement chômés. Et ce n'est qu'en 1942, les conditions de vie ayant changé, que le pape supprima cette obligation. Dans tous les cas, pendant cette période, on ne remuait pas la terre et on ne liait pas les vaches. Notons aussi que dans la plupart des communes, il était interdit de faire la bujade, la lessive, pendant cette semaine. Le pain de Pâques. Dans la plupart des communes du canton de Saint-Sulpice-des-Feuilles, nous dit Roger Drouot, le jeudi saint, on emportait à la messe un pain plié dans une serviette que l'on faisait bénir. Cette coutume existait aussi dans la commune de Broyofa, où l'on mangeait ce pain au repas de midi. À noter qu'à Blon, le pain béni distribué à la cérémonie religieuse, comme tous les dimanches, était le dimanche de Pâques, offert par une famille de riches bourgeois. Et toujours à Blon, nous dit Michel Dominique, le jour de Pâques, un copieux repas réunissait la famille. Le menu était particulièrement soigné, rappelant un peu celui de carnaval. Il comprenait de la soupe, du poulet, du rôti de porc, des gâteaux et surtout des beignets que l'on n'oubliait pas de préparer en cette occasion. Notons que dans une partie de la basse marche, on confectionnait le pâté de Pâques avec de la viande et des œufs durs. Le dîner, beaucoup plus modeste, utilisait les restes de repas de midi. Il devait avoir lieu avant le coucher du soleil, d'où le dicton « Déjeuner avec des œufs et souper de soleil pour voir Pâques une autre fois ».
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Les œufs de Pâques. Aujourd'hui, nos œufs de Pâques sont en chocolat, mais ce ne fut pas toujours le cas. L'origine des œufs de Pâques est mal connue. Selon certains, c'est peut-être aux Phéniciens qui adoraient le Créateur sous forme d'un œuf que nous devons cette coutume. Il apparaît que le cadeau d'œufs de Pâques aux enfants est tout récent en France et que même dans notre pays, cette coutume n'a jamais été universelle et qu'elle est plus fréquemment observée dans les gros villages et plutôt dans les familles aisées. Ces œufs étaient généralement colorés par cuisson avec des pelures d'oignons qui donnait une teinte rouge, avec des feuilles d'ortie qui donnaient une teinte vert jaune, avec du lierre et de l'oseille qui donnaient un vert jaunâtre. Ces œufs étaient cachés de préférence dans le jardin et surtout dans les haies, là où les poules aimaient parfois dissimuler leurs pontes. Le matin de Pâques, c'était une grande joie des enfants de courir ainsi dès leur lever à la recherche de ces œufs qu'une parfaite connaissance des lieux, doublée d'un flair exceptionnel, leur faisait rapidement découvrir. Il y avait encore une série de règles concernant les œufs. Les œufs pondus le jeudi et le vendredi saint n'étaient pas bons pour mettre à couver. À Blon, on gardait donc les œufs du jeudi et du vendredi pour les manger en omelette le jour de Pâques, afin de se préserver de la morsure des serpents. Dans le canton de Saint-Sulpice-les-Feuilles, il fallait, pour que ce même remède soit efficace, manger l'omelette avec le pain béni du jeudi saint. À Sieux, on mangeait deux œufs durs pour se préserver de la mort subite. Les coquilles des œufs mangés à la ferme pendant la semaine précédant Pâques étaient soigneusement ramassées, puis enfilées sur des morceaux de bois qui ensuite étaient réunis en forme de croix. Le jour de Pâques, l'ancêtre prenait ses croix et allait dans les champs de blé les planter en terre afin de préserver la récolte et la rendre plus abondante. Parmi les traditions anciennes, la veille de Pâques, dans nombre de paroisses de la Haute-Vienne, les enfants se réunissaient par petits groupes, parcouraient les campagnes, visitant les bourgs et les hameaux, demandant des œufs pour faire des omelettes. Ces petites bandes, éclairées par des brandons de paille, répétaient leurs chansons à la porte de chaque maison, et les habitants s'empressaient de se lever, quelle que fût l'heure de la nuit, pour garnir le bissac de ces guet-quêteurs. Voici les paroles d'une chanson du sud du département. On peut penser qu'il en existait de très proches en Basse-Marche. Donnez-lui quelque chose à l'hirondelle. Elle a chanté toute la nuit et toute la soirée. Ceux qui donneront de bonnes grâces au sein du paradis auront leur place. Ceux qui donneront de mauvaises grâces au plus profond de l'enfer auront leur place. Donnez des œufs, ma bonne vieille, pour les pâchés. Pâchés, c'est les omelettes. S'ils sont pourris, sucrez-les-lui. Faites-les nous passer par la fenêtre. S'il n'y a pas de fenêtre, la porte sera bonne. Nous allons terminer avec une coutume particulière de la commune de Blond dont Michel Dominique nous fait récit. La veille de Pâques, on essaie de faire revivre une très vieille coutume disparue depuis longtemps. Cette pratique est connue sous le nom de veillée pascale. Voici en quoi elle consiste. On allume un feu au pied d'un contrefort de l'église qui cache une gravure dans la pierre représentant probablement un blason. Une gravure antérieure à la construction de l'église. Quelques femmes surveillent le petit brasier et lorsqu'il est éteint, recueillent les tisons qui seront utilisés avec l'encens durant les cérémonies religieuses. Cette bénédiction des feux nouveaux remonterait à Saint Patrice qui aurait inauguré cette tradition consistant à bénir des feux de joie à l'intérieur des églises afin de supplanter les feux de printemps des druides. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle séquence des petites et grandes histoires de la Basse-Marche que nous avons consacrée aux rameaux et aux cornus que nous avons prolongé jusqu'à Pâques. Pour les textes, nous avons fait appel à Paul Lavergne, Charles Sylvestre, Florence de Guy, Michel Dominique, Albert Gourceau. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel à Maluzerne, Jean-Marc Staël, Macelb, Phyllis Avidan, Marina Lys et Vivaldi. C'est un arrangement pour flûte de Jean-Jacques Rousseau que nous écoutons en ce moment. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la Basse-Marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
La Basse-Marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la Basse-Marche.